Histoire de terre.
C'est obligatoire de marquer le calibre sur les boîtes quand on le vend en épicerie. Et quand par exemple un restaurant ou une collectivité commande quelque chose, elle demande un certain calibre.
Bienvenue dans Histoire de terre sur Radio Vassivière. Qu'ils se nomment paysans, agricultrices, exploitantes, éleveuses ou bergers, qui sont-ils ? Chaque mois, nous vous proposons de passer une heure avec un homme ou une femme qui, d'une façon ou d'une autre, travaille la terre, ici sur la montagne Limousine, mais aussi ailleurs. Nous avons envie de les suivre sur leur terre, avec leurs bêtes, et nous échangerons avec eux sur la vie de paysan et tout ce qu'elle implique. Ce mois-ci, nous sommes dans le nouveau poulailler de Didier Chicot, à Jalagna, commune de Faux-la-Montagne. Didier Chicot était éleveur bovin. Il a changé d'activité, il a installé l'année dernière deux bâtiments pouvant recevoir chacun 2700 poules pondeuses. Tous les jours sortent sur le tapis roulant 3200 œufs. Il les trie, les met en carton et en boîte et passe beaucoup de temps sur les routes pour écouler sa production qui va du petit marché à l'industrie de la casserie. Pendant une heure, nous serons successivement devant le poulailler, dans la salle de collecte, puis à l'intérieur du bâtiment avec les milliers de poules rousses qui vivent là.
On est à Jalagna,
oui.
La montagne.
C'est ça.
C'est à vous depuis longtemps, vous avez acheté exprès pour ça?
Non, j'ai pas acheté exprès pour ça, j'ai acheté il y a 8 ans maintenant, ça. Puisque le propriétaire vendait puis on l'exploitait, donc je l'ai acheté. C'est pour ça, sinon j'ai l'électricité pas loin, l'eau, donc c'est pour ça que j'ai construit ici. Hein. C'est tout. C'est la facilité pour la construction. Hein.
Donc vous avez construit deux poulaillers ?
Deux poulaillers, oui. De 2700 places chacun.
2700 places chacun. Donc
pour faire, place, façon de parler. On peut mettre 2700 poules dans le poulailler.
Mmh. Voilà. Et donc c'est pour produire des œufs ?
Des œufs. Ouais. En code 1, plein air.
En code 1 ?
1.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Des poules élevées en plein air. 0 c'est le bio, le 1 c'est le plein air, le 2 c'est élevé en bâtiment au sol et le 3 c'est en cage.
Voilà. Ah, on voit ce code sur les œufs ?
Sur le. C'est obligatoire. Le code est obligatoire sur l'œuf et sur les boîtes quand on les vend en magasin.
Donc il y a un numéro, c'est juste écrit code 1 ou il y a tout un grand
non,
numéro ?
Il y a marqué 1, FR. Après il y a des lettres qui représentent le code producteur et un chiffre qui représente le numéro du bâtiment.
Alors vous, c'est lesquels vos codes ?
Moi, c'est du code 1, du plein air.
Voilà. FR, et après ?
FR, c'est France. Il y a trois lettres qui représentent le nom de chaque producteur. Chaque producteur a des lettres qui correspondent à son nom.
Et vous, c'est ?
CCE.
Comme ça.
Voilà.
On va la retrouver. Alors, c'est assez récent, hein, ici ?
Courant 2014. Ça s'est construit et je vends des œufs depuis le mois d'octobre.
Et donc les poules, vous les faites pas naître ici ?
Non, je les achète prêtes à pondre. Parce que j'ai déjà assez de travail comme ça. Ouais. Si je dois en plus les faire couver, les faire naître, les élever et tout, non, je m'en sortirai pas.
Ouais, c'est un autre travail.
Voilà. Puis ça fait un bâtiment de plus, ça fait...
Donc vous les achetez à quel âge ?
18 semaines.
18 semaines. À 18 semaines, elles sont prêtes à pondre.
Ah, une semaine ou deux près, oui.
Et vous avez pas de coque ?
Non.
Alors, parce que moi j'avais déjà entendu que pour stimuler la ponte des poules...
C'est faux.
C'est faux ?
Non, c'est faux.
D'accord.
L'œuf c'est un ovule, donc il n'y a pas besoin de... La poule c'est naturel chez elle, elle doit pondre. Donc il n'y a pas besoin de stimulant. Le stimulant, on leur donne par l'alimentation. On les laisse en nourrir à base de céréales, maïs et blé, et le maïs c'est un stimulant.
Et alors, elles sont censées pondre combien d'œufs par jour ou par semaine, chacune, en moyenne ?
En moyenne ?
Ça dépend des saisons.
Les poules, on doit les garder 330-360 jours. Et sur cette durée, doivent pondre 280-290 œufs. À peu près. Hein,
c'est ce qui se passe ?
Je dirai ça à la fin, quand je débarrasserai la première bande.
D'accord, parce que ça marche par groupe
On rentre un lot dans un bâtiment, et on l'emmène jusqu'au bout, et après on fait le calcul.
Ouais. Donc là, vous en êtes à votre premier lot.
Premier lot là-bas, deuxième lot là.
Deuxième lot.
Voilà. Celle-là, ça en va début octobre.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir?
Ben, on va déjà s'habiller.
Mais et on est habillé.
Non.
Précisons aux auditeurs de Radio Vassivia.
Ben, on va mettre des surbottes et la blouse.
Des surbottes et la blouse, pas trop. Très bien, voilà. Ouais. Nous, on n'en a pas amené.
Non, mais moi, j'ai ce qu'il faut.
Bon, bah, allons-y, ouais, très bien. Donc là, on ouvre la porte, une porte du lot numéro 1, vous avez dit, voilà. Avec celles qui sont arrivées, qui vont partir en octobre.
Je ferme derrière moi ?
Non, c'est pas la peine.
Il fait chaud dans le bâtiment.
Normal.
Ouais. C'est pour savoir si j'arrive.
Alors, on voit deux.
Ça, c'est les surbottes.
Oui, ce sont les surbottes. Et les blouses, il y en a là. Ah,
ok.
Comment ça se refile là?
Juste sur le principe, les surbottes et la blouse, c'est pour qu'on n'amène pas de microbes.
C'est l'hygiène, c'est ce qu'on me demande. Parce que je sais pas où vous avez passé avant. Vous pouvez avoir été dans un hôtel élevage de volailles. Le microbisme est différent. Donc après, c'est moi qui vais ramasser les cadavres.
Ouais. C'est demandé par qui?
DSV. Puis bon, sans parler de la DSV, moi si je perds toutes mes poules, c'est pas l'avantage.
Non, c'est sûr.
Et une blouse, là.
Voilà. Et jusqu'à présent, justement, à propos de ces éventuels...
microbes, vous avez eu des maladies, enfin elles ont toujours eu des maladies,
il y a toujours une perte, pardon, une perte minimale,
toujours une perte, mais la réalité, rien d'alarmant.
Ça dépend ce qu'on appelle l'alarmant. Pour vous, bah, faut perdre moins de 10% sur la durée de vie du lot.
Qu'est-ce qu'elles ont comme maladie et tout?
C'est pas facile à dire parce que elles vont bien, le lendemain matin on arrive, il y en a une de morte. Puis après elle finit là.
Ça c'est le rouge à dire.
Voilà. Bah oui, puisque il faut 40 kg minimum pour faire venir l'écarissage.
Ah oui, d'accord.
Donc je vais pas les mettre en tas devant et attendre qu'ils viennent. Donc on a un congélateur.
Mais c'est les maladies des poules, ça peut être, c'est quoi? C'est plutôt du parasitisme?
Ouais, du microbisme surtout. Des petits microbes qui traînent. Comme on les concentre quand même. C'est quand même genre de concentration. Puisqu'il y en a quand même 1800 ou 2000 dans un poulailler. Donc c'est tout de suite plus fragile. C'est tout. Sinon, c'est pas spécialement fragile.
Et vous m'avez dit que peut-être le fait qu'on soit plusieurs, ça les effraie un peu.
Bah, parce qu'elles sont habituées à avoir une personne, c'est tout. Si elles étaient habituées à en avoir 10, elles n'auraient pas peur.
Là, par exemple, elles ont déjà peur, vous pensez?
Non.
C'est quand? Enfin, non. Voilà, si jamais vous pensez que ça, c'est gênant ou...
Non, c'est pas gênant, mais il faut rentrer un par un, c'est tout.
Ok.
Voilà.
Les consignes pour rentrer, c'est d'être calme, pas crier.
Pas crier. Pas de geste brusque.
Pas de geste brusque.
Parce qu'elles ne sont pas habituées, c'est tout. Ouais. Voilà. Puis c'est de la volaille. Ça s'effraie d'un rien.
On crie pas, on fait pas juste
le bout. On va faire ce côté avant. Ouais. Comme ça, tant que les surbottes sont.
Alors là, c'est pas les poules, c'est les œufs.
Là, c'est le centre d'emballage. C'est-à-dire, on a la zone sale, le centre d'emballage et le stockage.
D'accord, donc il y a plein de choses à dire, comment ça marche. Donc on a beaucoup de. Comment dire, pas de boîte 2, mais de carton 2 là. C'est des cartons de 36.
Non, 30. Il y a 39 par plaque.
Ça, c'est ce que. Vous les mettez pas un par un à la main
dedans, si. Ah, si. Viens.
Ah bon,
tu vas le faire à ma place. Hop, ça, c'est celui-ci.
C'est vrai.
Ça, c'est celui-là.
peut filer un petit coup de main, effectivement. Radio Vassivière aux côtés des producteurs. Donc là, quand on dit ce qui se passe, vous appuyez sur un bouton qui, ça, qui fait dérouler un tapis.
Un tapis, ça amène
des œufs.
C'est quelques-uns qui restent d'hier.
Ok. Bah oui, tant qu'on est là un peu. Vous les mettez pas. Ceux-là, vous les mettez pas dans le carton.
Après.
Ah, ça, c'est la machine à écrire sur les œufs.
Voilà, donc ça, ici, il y a la mireuse pour voir s'ils sont fêlés.
Pardon,
là, il y a la lampe. C'est pour mirer l'œuf, pour voir s'ils sont cassés ou fêlés.
Ah, donc vous pouvez regarder chaque œuf qui sort.
Et quand je les fais passer, bon, je les mets, je regarde, j'ai l'habitude maintenant. Donc, quand ils sont fêlés ou cassés, on voit la lumière qui monte à travers. C'est une habitude. Après, ils tombent là-bas. Donc, c'est sur la calibreuse. Et là, il y a l'imprimante qui marque le truc en passant.
Voilà,
les codes et la date. Voilà. Là, il y a eu l'investissement.
Ce petit engin, là, ça vaut 10 000 euros.
10 000 euros.
Oui. Ouais, on va dire, ça, la table, là, 3 500, juste ce petit bout, 4 500.
Alors c'est pour ça qu'on dit que justement produire des œufs c'est un investissement parce que comme ça on a l'impression bah produire des œufs voilà on les met en boîte et mais il y a ce problème de la machine
qui coûte cher les bâtiments avec les normes les emballages parce que les emballages sont pas donnés donc le tout rassemblé ça fait un joli petit chiffre à la fin.
Vous êtes endetté là?
Oui, mon projet, 300 000 euros.
Que vous n'aviez pas sur vous en cash?
Non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait en cash. Moi non plus.
Ah, ça bloque, non?
Non, non.
C'est quoi qui fait que?
Donc, vous prenez les œufs à la main, vous les posez sur un petit toboggan. Ça passe sur la mireuse.
Et après, ça va.
Donc là, vous devez surveiller qu'il n'y a pas de lumière à travers. Ouais. Ensuite, on a un petit système ingénieux qui prend l'œuf et qui le passe près du tampon de l'imprimante. Ouais. Après, il est rebasculé, mais très légèrement pour qu'il ne casse pas.
Et là, c'est ça le pèse. Ça, c'est la calibreuse.
Ah, ça calibre.
Ils n'ont pas le même poids.
Plus lourd et de moins en moins. Là, c'est-à-dire ici, là. 53, 63 grammes, moins de 53 grammes, 63, 73 et plus de 80.
Et pourquoi ça c'est important?
Quand on vend les œufs, que ce soit en collectivité, en restaurant ou dans les épiceries, on est obligé de marquer le calibre, c'est obligatoire. Le calibre doit être mentionné.
Je crois qu'il y a un renard là.
Non. C'est la chaîne d'aliments qui est partie.
Ah pardon. Je suis désolé, je vous ai coupé. Vous parliez du calibre.
C'est obligatoire de marquer le calibre sur les boîtes quand on le vend en épicerie. Et quand par exemple un restaurant ou une collectivité commande quelque chose, elle demande un certain calibre.
J'avoue que je vois pas
c'est
trop.
C'est le poids de l'œuf qui fait la différence.
Si sur les boîtes on voit gros œufs ou. Quand gros œufs après, je sais pas si on voit le reste. Mais...
Et ensuite, vous prenez les boîtes de 6.
Ça, c'est du boîte de 6.
Ah non,
c'est le modèle.
C'est du gros calibre. Pour les vôtres, les œufs du plateau de 1000 vaches.
C'est le moyen.
C'est le gros celui-là là-bas ou le moyen?
Comment?
C'est moyen ou gros?
Moyen.
Voilà. Donc celui-là. Je vais marquer ça.
Donc après, vous devez trier par boîte aussi. Voilà. C'est du temps, ça.
J'imagine que vous auriez pu peut-être avoir un système qui va direct jusqu'à la boîte, non?
Bon, oui, si quelqu'un me le paye.
Oui, voilà, c'est encore un autre achat. Qui...
Oh, c'est un petit robot qui coûte 150 ou 200 000 euros.
Pour mettre dans la boîte.
Il les prend là, il les fait passer sur la machine, il les reprend, il les met en boîte ou il les met en plateau. Il fait tout, mais...
Il faut le payer.
Voilà.
D'accord.
Plus cher que ça, par exemple.
Ouais, c'est vraiment pour des échelles de production.
C'est pour ce qu'on appelle l'œuf en cage, l'industriel. Ils sont tout robotisés. Ils sont obligés parce que
Je sais pas, ils doivent sortir 500 000 œufs au jour ou des trucs comme ça suivant les poulaillers.
Vous en sortez combien à peu près ?
Avec les deux poulaillers, là je suis à 3200 œufs par jour. Sinon, un poulailler c'est 1400, 1500.
Et alors, du coup, votre travail, une fois que vous avez mis en boîte les œufs, c'est vous aussi qui vous occupez de la distribution, la
commercialisation ? Je fais tout de A à Z, mais avant d'y mettre en boîte, il faut que je regarde qui veut quoi. Et c'est en fonction que je prépare. Et qu'après, le lendemain, je vais livrer.
Ah, vous avez des sortes de commandes, en fait.
Voilà, c'est ça.
Mais vous pouvez pas conserver vos œufs plus d'un certain temps, j'imagine.
J'ai le droit de le conserver 28 jours. C'est la durée légale, c'est la DCR. Mais après, moi, mes œufs, je peux les... en épicerie, ils ont que le droit de les mettre en vente pendant les 21 premiers jours. Après, ils doivent les retirer du rayon, pas les 7 derniers jours. C'est la loi qui est comme ça. Donc voilà, alors donc ça fait que les 7 derniers jours, je peux pas les vendre, quoi. Après, bah, tous mes œufs, tout ce qu'il y a là c'est du surplus, ça va aller à la casserie.
La casserie.
C'est ce que vous rachetez, le jaune en bouteille, le blanc en bouteille, la crème anglaise en bouteille, la mayonnaise en bouteille, l'omelette en bouteille. Et on nous paye ça une misère.
Et ça, donc c'est une entreprise à laquelle vous, oui, vous vendez ça, voilà, et qui font les transformations.
Voilà. Il doit y en avoir 5 ou 6 en France, casserie.
D'accord.
Qu'on appelle casserie.
Casserie.
Voilà, c'est-à-dire ils prennent les œufs, ils les cassent et ils les transforment.
C'est là qu'on fait les... J'ai jamais vu, mais c'est que dans certaines collectivités, on n'a pas le droit d'utiliser des œufs sous forme d'œufs, mais plutôt dans des tubes.
Ben oui, mais ça revient à ça, c'est le jaune d'œuf en bouteille, quoi. Ou le blanc d'œuf en bouteille, c'est stérilisé, et puis voilà.
Sinon, sur les autres installations de la pièce, on a fait un peu le tour.
À côté, je stocke les œufs, c'est tout. Ceux-là, c'est ceux de 2 jours, de 3 jours, des deux bâtiments. Donc, après, je les mets là-bas. Et puis après, ils vont aller à la casserie. Tout ce que je ne vends pas pour l'instant, ça va à la casserie.
Juste une petite idée du prix, vous disiez une misère. C'est-à-dire, c'est
55 pas... centimes le kilo.
Ah, le kilo.
Ça, c'est le prix auquel vous vendez les œufs que vous n'avez pas réussi à vendre autrement.
Voilà, à la casserie.
D'accord.
Parce qu'ils savent pertinemment qu'on ne peut rien en faire. Si on veut les faire partir, s'en débarrasser à l'écarissage, c'est nous qui payons l'écarisseur, là. Mmh. Donc,
Et ces casseries, par exemple, vous travaillez avec laquelle ?
Ben, la plus près, elle est en Charente-Maritime, elle est à Paluau.
Ils viennent les chercher, les œufs ?
Non, on les leur approche sur les grands axes routiers.
Et là, eux, ils viennent les chercher à 28 jours avant, après, c'est pareil, c'est suivi.
C'est dans la date, dans l'écart, entre 0 et 28 jours, on doit les leur fournir. Après, eux, ils se débrouillent.
Et vous partez avec ces œufs, puis vous donnez rendez-vous sur un...
En fonction d'où ils sont, quoi. C'est soit sur la 20, soit sur la 89, la 145, c'est variable.
D'accord.
Alors, comment on fait pour transporter des œufs sans en casser ?
On se débrouille.
Je me demandais si vous avez une petite technique.
Bah, si je remplis le véhicule, là, je les empile en plateau, et puis je mets jusqu'à 14 000 œufs dedans. Si je les mets en carton, j'en mets 7 200. Parce que je perds de la place.
Le plateau, c'est un carton de 30,
ouais,
de 6 par 5.
C'est la plaque de 30, voilà.
Ouais, le carton, c'est la boîte d'œufs.
Le carton, il y en va 360 dedans.
Ah, pardon. Donc,
les cartons, c'est. Ils font. Ouais, ça fait 2 piles de 6 plateaux.
Des œufs par terre,
ouais.
Là.
Oui. C'est le pont par terre, c'est normal.
Ouais. Bonjour.
C'est assez impressionnant, hein.
C'est assez impressionnant.
Quand on n'est jamais rentré dans un poulailler comme ça, c'est assez impressionnant. Vous êtes moins impressionné, peut-être.
Ben, moi, oui.
Donc là, elles ont la possibilité d'aller dehors, mais parce que vous avez ouvert les portes.
Mais là, elles sont rentrées parce que les céréales, ça s'est mis en route pour venir manger. Sinon, elles vont ressortir.
Alors, faut décrire un peu parce que
on est. C'est un bâtiment de. Vous décrirez plus facilement que moi, à mon avis.
Bah, que... je dirais quoi, 30 mètres de là, de long.
30 par 12.
30 par 12, de la taille du bâtiment, et il y a des poules partout autour de nous. elles se ressemblent beaucoup, hein, c'est vraiment une race.
C'est des Lomanes.
Lomanes. J'imagine qu'elles ont leur petit numéro aussi, leur type.
Non.
Lomanes, on dit Lomanes. D'accord. Et je pense qu'il faut vraiment parler assez fort parce que sinon on va rien entendre.
Donc là, j'imagine que c'est par là qu'arrive la nourriture.
Alors, c'est la préniposeuse.
Qui va doser.
Elle dose pas, mais bon, y a une bascule tous les 10 kilos qui bascule pour que moi je sache ce qu'elle mange. Parce que si un jour, on va dire, elle mange pas beaucoup moins, c'est que j'ai un problème. Je surveille l'eau. Je surveille l'eau parce que j'ai deux compteurs à l'intérieur pour vérifier les quantités d'eau qu'elle boit et les aliments qu'elle mange. Voilà.
Okay. Et donc, vous les nourrissez plusieurs fois par jour ?
La chaîne démarre 3 fois par jour. Là, elle mange autour de 125 grammes par poule.
Et par jour.
Et par jour, oui.
Et vous, là, vous venez parce qu'on est là. Sinon, vous venez tous les jours. C'est quoi le travail qu'il y a à faire pour vous à l'intérieur du poulailler ?
À l'intérieur du poulailler, ça va être ramasser les œufs qu'il y a par terre. Vérifier qu'il n'y a pas de cadavres. Il y en a une, là, elle était enterrée, elle est ressortie, apparemment. Je ne l'ai pas vue. Et sinon, c'est regarder s'il n'y a pas de fuite d'eau, si mes pondoirs sont ouverts, et puis voilà.
Normalement, du coup, elles vont aller pondre dans le pondoir. Voilà. Il y a un petit tapis roulant qui fait que les œufs arrivent là où on était tout à l'heure. Ou...
Faut monter voir, c'est le plus simple.
On peut aller voir là ?
Donc les poules, en général, elles ont le réflexe de pondre, d'aller là-bas.
On va toujours pondre à un endroit sombre. Donc c'est fait de telle manière que ce soit un peu plus sombre que le bâtiment pour qu'elles y aillent. Ouais.
On n'aura plus besoin du. On n'aura plus besoin du vêtement.
De la blouse, non.
Ouais, elles sont pas farouches, ces poules, hein.
Non, mais faut pas faire de bruit, qu'elles n'ont pas l'habitude.
Donc, ouais, l'Omane, ça vient d'où ces poules ? De toute façon, les poules, c'est des fabrications de croisements depuis.
J'ai pas cherché.
Vous savez pas, ouais.
C'est la poule la moins peureuse et qui se stresse le moins. Et qui fait des œufs à peu près, on va dire, réguliers. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Les autres sont plus peureuses. Donc, plus une poule est peureuse, plus elle stresse, moins elle pond.
Est-ce qu'il existe des races de poules liées à des régions je pense à ça parce que chez les bovins, il y a les Limousines.
Plus ou moins, mais bon, je n'ai pas étudié ça, j'ai pas regardé. Ça, honnêtement, j'ai pas regardé. Moi, j'ai pris aussi la. Parce que bon, on a des techniciens pour nous suivre et tout. Et bon, ils nous conseillent en fonction de ce qui est le plus facile à conduire, on va dire.
Technicien de la chambre d'agriculture ou...
Non, il n'y a pas de technicien agricole en chambre d'agriculture.
Ce sont des spécialistes indépendants.
C'est un technicien indépendant. Oui, mais indépendant, il est privé. Ouais. Il travaille pour une boîte d'aliments. Mais bon, il suit la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne et une partie du Périgord. Donc, voilà.
Et donc, ce que vous leur donnez à manger, vous ne produisez pas d'aliments ?
Je n'ai pas la surface pour produire. Ouais. Et puis, la ration qu'elles ont, c'est soit dedans il y a 70% de maïs, 30% de blé. Et le plateau de vache, le maïs et le blé, c'est pas très adapté.
Donc vous achetez l'aliment.
Enfin, l'aliment, c'est de la céréale.
C'est de la céréale, voilà. Et puis après, avec cette boîte d'aliments, justement, voilà. Avec qui il y a un technicien et qui vous conseille en même temps.
C'est ça.
Donc il y a quand même des parties en hauteur, ça c'est parce qu'elles aiment bien être en hauteur
Elles sont sur caillebotis quand elles dorment la nuit pour stocker les fientes à cet endroit-là. Parce que si on ne fait pas cette partie-là, il y en aura partout et puis on ne pourra pas circuler dedans.
Et qu'est-ce que vous en faites de cette fiente de volaille?
Eh bien, je vais la vendre.
Ça, c'est bien pour les jardins. Ça apporte des minéraux, non?
Oui, mais enfin, il faudra peut-être pas trop en mettre celui qui en met dans son jardin. Oui. Parce que normalement, si j'ai bonne mémoire, azote, phosphore, potasse, chacun, ce sera entre 30 et 35 unités tonnes.
Vous allez les vendre? Parce que pour l'instant,
J'ai pas de surface pour y écarter déjà. Et on cure qu'une fois qu'on a débarrassé le lot de poules. Une fois par an.
Ouais, c'est vraiment des sessions d'un an avec un rythme. Oui. Là, vous préoccupez déjà de qu'est-ce que vous allez en faire? Vous savez pas encore?
Là, pour l'instant, non, je m'occupe pas de ça. On verra au moment. Pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations.
Ouais, c'est ça, vous avez l'air assez débordé.
Disons que je suis tout seul. J'ai 4 à 5 heures de travail rien qu'au poulailler pour ramasser les œufs, les mirer, calibrer, préparer les commandes des marchés. Après, j'ai les livraisons à faire, j'ai mes marchés et j'ai le démarchage à faire.
Et en plus, il faut recevoir Radio Vassivière.
Voilà.
Merci.
Et donc, pour finir dans ce poulailler, au centre du hangar, il y a les pondoirs.
Oui.
Donc, j'ai vu des poules qui étaient en train de pondre, vraisemblablement.
Ah, c'est possible.
Et les œufs partent vers
Ils vont tout seuls sur le tapis de chaque côté,
Mais en plus de ça, malgré le fait qu'il y ait des pondoirs et que les œufs partent tout seuls, vous devez quand même vérifier et ramasser les œufs qu'elles pondent quand même ailleurs.
Il y en a quelques-uns, il y en a quoi, je sais pas, 70, 80 à ramasser tous les jours.
On peut aller voir la partie plein air, qui est donc juste à côté, forcément. Vous ouvrez tout le temps, pas tout le temps, comment ça
Ouvrir.
Leur permettre de sortir.
Quand il y a de la neige, je peux pas, puisque vu la configuration des bâtiments, ça se stocke devant, donc ça fait un tas, elles sortent pas. Et quand il pleut trop, je les sors pas non plus.
Parce que
elles boivent de l'eau dehors. Et l'eau de dehors, après, elle leur fait blanchir la coquille, voire le jaune d'œuf. Et après, il y a des gens qui me disent que mon jaune n'est pas assez jaune.
C'est une chimie particulière.
Je sais pas pourquoi l'eau.
Vous avez remarqué ça déjà, que quand elles boivent l'eau de. D'accord.
Elles boivent pas l'eau de l'intérieur, l'eau propre, quoi, la même que nous. Ça leur fait blanchir un peu plus la coquille.
C'est quoi la surface que vous avez grillagée à côté? Un petit hectare, on a l'impression qu'elles sont allées picorer de l'herbe, elles mangent un peu d'herbe aussi, j'imagine.
Ah oui, elles mangent l'herbe.
Ou qu'elles sont même pas allées jusqu'au bout, en fait, elles ont de la place, quoi.
Oui, elles ont de la place, mais ça dépend des lots. Il y en a des lots qui vont aller jusqu'en bas dès le départ, et puis d'autres qui sortent beaucoup moins, ça, c'est variable.
Question de caractère.
Peut-être, j'en sais rien. C'est comme nous, hein. Il y en a qui vont courir très loin, et d'autres beaucoup moins. Hein.
Non, mais par rapport à l'image, le plein air, parce que vous avez dit c'est quand même le code numéro 1,
oui.
C'est bien qu'elles soient en plein air, et là on voit qu'en fait elles peuvent aller en plein air, mais que je dirais la majorité reste à l'intérieur.
Là, elles restent à l'intérieur. Elles
n'ont pas l'air d'aller hyper loin.
Elles restent à l'intérieur pour l'instant, parce que.
Celles qui sont sorties, elles sont à l'ombre aussi.
Voilà.
Ça joue.
Parce qu'il fait plus frais là que là.
Il fait plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Voilà, pour l'instant. Soir, je sais pas. 16h30, 17h, elles vont descendre jusqu'au milieu là-bas en bas. Parce qu'il fait plus frais.
La poule craint la chaleur.
Voilà. Trop de chaleur, perte de pente.
Ah oui. Donc ça veut dire que l'été, en règle générale, on a moins de pente que l'hiver?
Dans les cours agricoles, oui. Disons que là, on essaye de gérer la température avec la ventilation et puis l'extérieur. Mmh. Mais bon, ça baisse un peu, mais moins.
Là, au mois de juin, vous avez subi les chaleurs fortes déjà? C'était difficile?
Ça n'a pas duré très longtemps, donc ça va. Mais bon, un bâtiment isolé, ce qui protège du froid, protège du chaud.
ça y fait aussi.
Là, c'est quoi comme isolation ?
Là, il y a de la laine de roche en haut et là, c'est des panneaux sandwich sur le côté.
Et moi, je croyais, alors peut-être c'est encore une fausse idée, mais que la ponte dépendait aussi de la lumière.
Oui.
Oui, oui, il a dit tout à l'heure dans le poulailler, donc elle va pondre la poule à l'ombre, à l'obscurité.
Elle pond à l'obscurité, mais non. Ce qu'elle veut dire, c'est que la poule pond quand les jours allongent.
Voilà, c'est ça.
Mais j'ai pas ce souci, puisque moi, je leur mets la lumière le matin pour avoir toujours la même luminosité, durée de luminosité par jour.
Ce qui permet de réguler la production
voilà.
Sur l'année.
Ça et l'alimentation, et on a... On lisse, on va dire, la quantité d'œufs sur l'année.
Est-ce que vous avez eu des soucis avec des prédateurs ? Donc renards,
par les airs.
Par les airs, oui. C'est vrai que là, on a un grillage autour, mais pas au-dessus.
Non, bah oui, mais enfin, pour le mettre au-dessus, c'est pas facile. Hein ? Bon, le renard, c'est l'électrique tout le tour, et puis voilà.
D'où la clôture est tout électrifiée ?
Non, non, ça ne l'allait pas. Mais il y a un fil à... Bon, il commence du coin, là, il fait le tour, à 5 cm du sol pour le renard.
Okay. En dessous du sol ?
Non, non, à ras du sol, à 5 cm au-dessus du sol.
Pour le renard, et les fouines, martres et tout ça, il n'y a pas...
C'est fouines, martres, ça vient la nuit. Donc la nuit, les poules sont fermées, ça risque rien.
Et par les airs, vous disiez, oui, vous avez eu quelques attaques ?
Bah oui.
De rapaces ?
Voilà.
Alors, j'ai entendu récemment qu'il y avait, il y aurait des autours des palombes qui attaqueraient les poulaillers et qui feraient des gros dégâts.
Sur de la poule comme ça, peut-être pas. Sur des poules plus petites, oui. Parce que lui, il plonge et il l'attrape, il s'en va. Moi, j'ai plus eu de soucis avec ce qu'on appelle communément la buse. La buse ou le milan. Mmh. Voilà. Qui est beaucoup plus gros et que la poule comme ça lui fait pas peur de l'attaquer. Mmh. Autour des palombes, lui, il va plus aller sur de la petite poule, du petit canard, de la pintade. Malgré que s'il a rien, il peut s'attaquer à ça. Hein.
Et comment on fait pour se protéger des rapaces ?
Mais si, il y aurait le grillage au-dessus, mais là, c'est...
Mais des surfaces comme ça, c'est pas la peine. Après, moi, comment je fais pour entretenir le...
Et comment ça se passait quand il y avait eu, justement, l'épidémie de grippe aviaire, où il fallait...
Je sais pas. Je sais pas, moi j'avais pas de poulailler.
Ah oui, oui.
Bah, si on est soumis au confinement, elles sortent pas. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, elles restent.
On n'a pas le choix, voilà.
Et alors, si on revient un peu sur votre histoire, donc vous disiez, ça fait 2014 là que vous êtes installé.
2014, oui.
Production d'œufs. Et avant, vous étiez déjà agriculteur.
Oui.
Vous étiez apiculteur.
Les deux.
Les deux. Voilà. Les deux comment ?
Agriculteur et apiculteur.
Ah oui.
Voilà.
Ah, parce que vous faisiez, vous aviez un élevage, un autre
bovin.
Élevage bovin.
Oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a décidé à changer ?
Des raisons de santé.
Liées aux abeilles ou...
Non, intolérance à la poussière suite à une opération du nez.
D'accord.
Là, il y en a un petit peu aussi, la poussière, mais ça
oui,
va.
Oui, mais enfin, la poussière dans le bâtiment, j'y passe quoi, une demi-heure par jour, donc je mets un masque. Mais bon, dans les vaches bovins, on est dans les bâtiments, on est dehors dans les foins, dans la terre, il y a de la poussière tout le temps. Donc, on peut pas non plus... moi, travailler toute la journée avec un masque, je peux pas.
Et pour vous, c'était important de rester... dans l'agriculture, vous n'aviez pas envie de changer totalement.
Oui, et puis je ne me voyais pas, pas passer par salarié après 17 ans, avoir été mon propre patron.
Comment vous avez commencé ? Vous avez repris la ferme, l'exploitation familiale, ou c'était une nouvelle installation
Là où il y a 17
ans ? Non, il y a 17 ans. Quand
il y a
vous
17
avez...
ans, bah, je me suis installé, j'étais la quatrième génération. Donc voilà. J'ai pris la suite avec mon père, puisque mes parents, mon père et ma mère étaient sur l'exploitation. Donc bah, on s'est mis en GAEC, on a développé l'exploitation, et bah, mes parents ont pris la retraite, c'est ma soeur et mon beau-frère qui sont rentrés, et puis moi qui suis sorti suite à mon souci de santé. Voilà.
Oui, donc eux continuent l'exploitation des bovins. Et par contre, l'apiculture, ça s'est complètement arrêté
ou... Non, je l'ai gardé.
Vous continuez.
Voilà.
Ça, ça va avec vos ennuis de santé, c'est pas compatible.
La poussière, il n'y en a pas beaucoup. Ah. Bon, il y a un peu quand on va avoir les abeilles, un peu d'enfumage, mais bon, si on se débrouille à faire attention, ça va.
Et vous avez combien de ruches?
Pas beaucoup, une 35-40. Ah. Voilà. C'est de l'amusement. Si j'ai du miel, je le vends. Si j'en ai pas, ben voilà, c'est tout.
Ça, c'était surtout pour le plaisir d'avoir des ruches.
C'est ça.
C'est quelque chose que vous avez découvert tout seul
Mon père en a toujours eu quelques-unes. Et puis, bon, on y a développé début des années 2000. Voilà.
Et à la base, vous aviez fait une formation
Pour
Je sais pas, un BPREA.
C'est ce que j'ai fait. J'ai le niveau bac, mais bon, je ne l'ai pas eu. Donc j'ai fait le BPREA. Après, je me suis installé et puis voilà. J'ai continué dans l'agriculture jusqu'à ce jour.
Et alors ça va, vous allez continuer c'est une bonne première année ou pas
La première année, elle n'est jamais bonne. Parce que quand on débute, il faut se faire connaître. Personne ne connaît notre produit, donc le temps de le faire connaître, de le vendre, il faut au moins un an avant de pouvoir savoir si on a fait quelque chose de bien ou pas.
Alors, on est encore un peu trop tôt alors pour.
Voilà.
Enfin, on imagine avec cet investissement que c'est pas pour fermer au bout d'un an non plus.
Non, j'ai pas du tout envie de fermer au bout d'un an, mais bon, il faut, quand on vend les œufs dans des magasins, par exemple, il y a tel étalage d'œufs, on est au milieu, donc il faut que les gens commencent à connaître le produit et à changer leur habitude de consommation.
Et alors, c'est quoi vos arguments pour ça? C'est le côté local, ici, acheter de l'œuf du plateau, j'ai vu vos boîtes, c'est l'œuf du plateau de Mille Vaches ou c'est l'œuf de Creuse? Enfin, comment vous faites pour essayer de vous placer?
Pour essayer de se placer, déjà, c'est un œuf local. C'est un produit, on va dire, de qualité, puisqu'elles sont en plein air, elles sont nourries aux céréales, sans OGM. Après, il faut se débrouiller pour faire comprendre aux intermédiaires, c'est-à-dire les épiceries, tout ça, qu'on a un produit qui est différent, qui est de meilleure qualité, donc eux, à l'autre bout, ils vont avoir des retombées.
Alors vous avez vous vendez, vous nous dites un peu à qui vous vendez pour l'instant?
Donc je fais quelques marchés, le marché de Faux, A1, Feltin et Moutier. Après je vends aux épiceries, à des épiceries, pâtisseries, restaurants, collectivités et grandes surfaces.
Parce qu'à la fois on est dans une zone où il n'y a pas énormément de monde, donc faut faire
des kilomètres. Voilà.
Votre secteur, c'est quoi? C'est la Creuse ou de la région Limousin?
Creuse, bordure Corrèze et un peu l'Allier. Molusson, quoi.
Et c'est vous qui livrez à tous ces endroits-là. Voilà. Ça doit représenter des heures de travail sur la semaine, non?
À la fin de la semaine, il y a quelques heures de fête, oui. Ça va faire, entre 60 et 70 000 km par an.
Vous n'avez pas envisagé de travailler à plusieurs sur cette activité-là?
C'est pas viable.
C'est pas viable.
Non, c'est pas viable. À deux personnes, c'est pas viable.
Vous avez rencontré
Peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, non.
Vous aviez déjà été visiter justement d'autres producteurs d'œufs qui ont la même taille d'installation, pour vous faire une idée à l'avance?
La même taille, oui. Les visiter pour me faire une idée, non. Pour savoir comment ils travaillent, voir les avantages, les inconvénients. Et puis avant de s'installer, il faut faire une étude économique, hein, une étude de marché. Sinon, c'est pas la peine. Si on fait pas une étude de marché, on ne sait pas où on va si on s'installe comme ça. D'abord, sans étude de marché, que ce soit les banques ou le reste, personne ne suit. déjà qui suivent difficilement.
Ça consiste en quoi, faire une étude de marché ?
Eh ben, on prend sa voiture, son bâton de pèlerin, et puis on va voir les épiceries, les supermarchés, les pâtisseries, tout ça. Savoir s'ils seraient intéressés, savoir combien d'œufs ils prendraient. Et puis après, on fait une petite somme, et à la fin, c'est oui ou c'est non. Voilà.
Donc ça a été oui.
Bah pour l'instant, oui.
Vous mangez plus d'œufs depuis que vous faites ce métier ?
Non, pas forcément.
Parce que vous en avez toujours sous la main ?
Non, pas plus qu'avant.
Quel regard vous portez un peu sur l'agriculture aujourd'hui ? Enfin, je sais pas, par exemple, par rapport à la réforme de la PAC Si vous imaginez que la... parce que vous avez quand même fait le choix donc d'avoir, vous dites, l'argument de, principal de vente, c'est le fait que ce soit des œufs qui soient produits localement.
Oui. On est dans une région où les gens aiment les produits locaux. Donc si on ne produit pas local, on a moins de chance déjà. Donc non, mais bon. Après, la PAC... On va dire que le verdissement de la PAC, il y a du bon et du mauvais. Et puis voilà, parce que bon, il y a certaines choses après qui font que ceux qui ont écrit ça, c'est des gens qui sont derrière un bureau et ils sont illogiques. Parce que bon, il y a des engagements, ils demandent des engagements sur des, tout ça. Comme par exemple, on va dire la haie qu'on voit là en face. Si l'agriculteur l'engage, s'il est locataire, le propriétaire n'a plus le droit de couper ses arbres. C'est illogique. Le propriétaire est bien libre de faire ce qu'il veut de ses arbres dans la haie. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que c'est des bureaucrates qui écrivent ça et qui ne viennent pas sur le terrain.
Et concernant le poulailler, vous avez des aides hein ?
Zéro.
Ah oui ?
L'aviculture en Limousin n'a droit à aucune aide.
En Limousin ?
En Limousin. Ben, parce que c'est la région qui décide sur ce type d'aide. Qui elle va aider ? Maintenant qu'on fait partie de la région Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Poitou avaient choisi d'aider aussi l'aviculture. Donc moi, j'ai démarré sans aucune aide.
Mais avec la nouvelle région, à partir de...
J'y ai plus droit maintenant, vu que c'est construit.
Ah, ça, c'est des...
Il y a de l'installation.
Voilà. Et la construction.
Et sinon, la PAC aide les élevages bovins, mais pas les élevages de poules.
Les bovins, ovins, essentiellement, oui. Le reste, non.
Oui, donc quand vous dites vous avez investi 300 000 euros, c'est des emprunts à la banque que vous avez fait, c'est tout.
C'est ça.
Il n'y a pas de subvention.
Non, il n'y a rien.
Donc c'est un gros pari quand même.
Voilà. Que j'espère réussir.
Alors vous êtes dépendant fortement du fournisseur de poules et du fournisseur d'aliments là quand même, avec ce système.
Dépendant de quelle façon ?
Bah, c'est eux qui si, je sais pas si... Il n'y en a pas 36 des producteurs de poules à...
De
je sais
poules,
plus quel âge, vous avez dit,
18
vous
semaines, elles ont.
18 semaines, mais, si
ils sont, ils sont, ils sont dépendants de moi aussi, si je veux les acheter ou pas.
Oui, oui.
On peut retourner l'argument dans l'autre sens. Le marchand d'aliments, c'est pareil. On en a plusieurs, on choisit celui qu'on veut. Donc, ils sont bien dépendants de nous aussi. Et même, je dirais qu'ils sont plus dépendants des éleveurs, maintenant, parce qu'avec la conjoncture, donc qu'avant, c'était plus l'inverse. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire jouer la concurrence qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Parce que la conjoncture fait que ils veulent tous travailler, donc on arrive à négocier des tarifs. Qu'il y a 20 ans, c'était plus dur.
Le fait de ne pas toucher de subventions, est-ce que ça fait que vous avez moins de paperasse à faire ?
Non.
Parce qu'on entend beaucoup ça.
Mis à part les déclarations d'aide que je ne fais pas puisque j'y ai pas droit. Mais bon, sinon j'ai la même paperasse que les autres à faire. Puis bon, moi je suis dans un système tout en vente directe, c'est-à-dire bon livraison, facturation, j'en fais toutes les semaines. J'ai presque plus de paperasse qu'un élevage traditionnel. c'est différent, c'est pas la même façon de travailler. C'est tout. Après, il y a plus de temps. Enfin, je vais dire, il y a plus une fatigue morale, on va dire, là, dans ce système d'élevage, en aviculture, que dans l'élevage bovin ou autre, c'est plus une fatigue physique. Là, c'est pas tellement physique. Mais bon, c'est moral, c'est usant, et puis c'est la longueur des journées, quoi, aussi. Voilà.
Oui, et de devoir... parce que quand vous étiez éleveur de bovins, vous faisiez quoi, du broutard ?
Non, on vaudelait.
Vaudelait, d'accord. Ah oui, donc c'est...
Oui, c'était prenant aussi.
Alors, vous deviez aussi vous occuper... Peut-être vous bossiez avec une coopérative pour...
Pour les veaux ?
Pour les veaux ?
Oui, un groupement.
Ouais. Alors que là, vous avez toute la partie commercialisation
J'ai
à faire.
J'ai tout à faire, voilà. Si je me débrouille pas pour les vendre, ben je les vends pas.
Il n'y a pas dans le monde, dans la filière, le secteur de l'œuf comme ça, d'agriculteurs, d'éleveurs de poules qui vendent tous leurs œufs à la même industrie ou...
Si, mais ça c'est... Il y en a qui sont en intégration, il y en a d'autres qui sont comme moi mais qui vendent à une coopérative qui les ramasse. Mais il faut être à moins de 40 minutes des trois grands axes routiers du Limousin.
Pour qu'ils les ramassent. Moins de 40 minutes des trois grands axes.
Sinon ils viennent pas les chercher.
C'est-à-dire la 89, la 20 et la N145.
Voilà.
Et vous, jusqu'à votre cas,
Non. Je suis à une heure.
Mais ça vous le saviez avant de commencer?
Oui.
Ah oui, les coopératives, elles ont des distances comme ça précises, quoi.
C'est un temps, c'est des frais, tout est calculé chez eux.
Et alors ces poules, une fois, vous disiez, vous les gardiez 300 jours à peu près.
330, 360, ouais. Ouais.
Qu'est-ce qu'elles deviennent après ?
Il y a plusieurs options, on va dire. Soit je trouve à les vendre autour. Vivantes ou mortes une fois qu'elles ont passé à l'abattoir, ou alors après c'est un grossiste. Et un grossiste, ça fait comme les œufs, c'est une misère.
Allez, j'ai encore oublié le nom. Les caristes ? Non.
Non, les casseries.
Casseries.
Oui, c'est ce que vous m'avez dit l'autre fois, c'est souvent des aliments pour animaux en fait.
C'est quoi les poules ? Oui. La plupart sont destinées aux croquettes, transformées en croquettes. Voilà. Il y en a très peu qui se retrouvent dans l'assiette du consommateur, alors que c'est de la poule qui a un an, elle n'est pas dure, rien.
Et vous pouvez pas aller en abattre quelques-unes, les vendre
J'ai pas le droit de les abattre. Comme ça, il faut un bâtiment avec un laboratoire. Voilà. Donc non, soit elles s'en vont vivantes, soit après, il faut les amener dans un abattoir à volaille. Et puis,
Il y en a un abattoir à volaille dans le coin
Guéret.
Guéret.
Le CAT de Guéret a monté un abattoir pour volailles.
Vous ne les appelez pas toutes par leur petit prénom ?
Non.
Il n'y a pas de boucle de puce hein, sur ça.
Non, il n'y a rien du tout sur la volaille.
Sur elle.
Non.
Vous pensez que ça risque d'arriver un jour, ce genre de choses ?
Je crois pas. Parce que bon, je vois pas comment on la leur mettrait, mais bon. Déjà, et puis après, bon, ça a un cycle de vie assez court. C'est pas comme dans l'élevage bovin, ovin ou caprin, où les bêtes, le cheptel souche reste plusieurs années.
Est-ce que vous faites partie d'un syndicat de producteurs, d'agriculteurs ?
Alors oui, je fais partie du syndicat de la FDSEA. Je suis au conseil d'administration et président de la section diversification.
Voilà. La section diversification, ça consiste en quoi ?
Tout ce qui n'est pas traditionnel, élevage bovin, essentiellement, tout le reste quoi. Ça concerne tout le reste, on va dire le mouton, l'apiculture, tout ce qui est circuit court, par exemple, il y a les travaux diversification, donc dans la diversification des revenus agricoles, on va dire, tout en restant dans l'agriculture, par exemple, il y a les gens qui veulent faire un peu comment dire, travaux portières. Il y a des agriculteurs l'hiver qui font le déneigement, ça concerne tout ça.
Ça, c'est un engagement syndical, enfin professionnel, qui vous prend en plus du temps. Enfin, c'est dans
ben,
quel,
oui, ça prend du temps aussi. Si on veut s'en occuper, ça prend du temps.
Qu'est-ce
oui.
qui vous motive là-dedans?
Mon métier, mon département, et puis la vie sur mon territoire.
Et le fait de du coup d'être dans un syndicat, est-ce que il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être pour aussi rencontrer des gens qui font des choses proches de vous et avoir des échanges là-dessus, ou alors c'est un combat politique. Comment vous le voyez-vous ?
Il y a des échanges, ça fait on rencontre des personnes d'un milieu différent, et disons que à notre petit niveau, on essaie d'influer sur les orientations, voilà. Parce que ce que je regrette, c'est qu'il y ait pas mal de gens qui se plaisent, enfin qui trouvent des fois que ça va pas, mais personne veut s'investir.
Pour vous parlez chez les agriculteurs
En général, je ne parle pas que de l'agriculture.
En général.
Les gens, il y en a pas mal qui se plaignent, mais il n'y a personne qui va aller s'engager pour défendre, comme on dit, le beefsteak. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Si on se plaint, après, il faut être capable de venir défendre. Moi, je pense. C'est pour ça que, moi, j'ai toujours choisi l'optique d'aller défendre, et puis si je peux, et puis c'est tout.
Bon, la FDSEA, diversification, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est vrai qu'on entend, j'ai l'impression qu'on parlait de la FDSEA sur des thèmes liés à la PAC, liés au modèle bovin, enfin qui est le plus répandu par ici.
Bah, de toute façon, l'économie agricole creusoise représente 38% de l'économie du département, l'agriculture. Sur cette partie, on va dire, sur ces 38%, il y a 80% qui est en bovin. Donc, on peut entendre parler de ça. Les autres, après, c'est une minorité, on en entend parler par moment, mais c'est pas pour ça que c'est pas défendu.
Et alors, c'est quoi vos principaux thèmes sur lesquels vous cherchez à faire bouger les choses, par exemple?
Disons que moi, je travaille beaucoup sur la vente directe, les circuits courts. C'est la deuxième année cette année que je vais organiser un marché à Courtille, à l'étang de Courtille, avec des producteurs creusois, pour faire voir ce qu'on produit en Creuse, la qualité qu'on a et la diversité de nos produits.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de choses qui aident ça.
Non, c'est pas ça. C'est que je vais dire que soit les touristes ou même les gens de la Creuse ne savent pas forcément ce qui est produit en Creuse. On va dire les gens de Faux savent que moi je fais de l'œuf, mais c'est pas pour ça qu'on va dire à 20 km il y en a qui le savent. Et vice versa pour d'autres productions. Donc il faut qu'on arrive à faire connaître tous les produits et les producteurs creusois.
Donc faire partie d'un syndicat, c'est aussi pour vous un moyen de communication? Enfin, vous essayez de développer des choses dans ce sens-là?
C'est un moyen de communication, c'est un moyen de développement, et puis après, c'est disons un moyen aussi de trouver des solutions à plusieurs, et puis d'avoir des relations, on va dire, avec que ce soit le département, la région, pour trouver une issue pour améliorer les choses.
Et à propos de production locale, on a des supermarchés qui font beaucoup de pubs là-dessus depuis quelques années là. C'est quand même une tendance le local, qui les intéressait pas du tout, les supermarchés, il y a quelques années. Maintenant, ça revient, enfin ça vient. Donc ils publient des pubs avec les producteurs locaux. Vous avez plutôt envie de rentrer là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les grandes surfaces, ça a pas toujours été les amis des agriculteurs. Hein. La FNSEA déverse parfois du fumier devant les grandes surfaces.
Ça, c'est différent. Après, il y a des, c'est comme dans un couple, il y a des hauts et des bas.
Alors, il en est où le couple grande surface FDSEA?
Non, c'est pas spécialement la FDSEA. C'est, disons qu'après, les grandes surfaces, c'est un produit d'appel pour eux aussi. Donc, ils jouent le jeu aussi sur ce système-là parce que ça leur apporte eux aussi. Donc, c'est un partenariat. C'est comme je dis, c'est comme dans un couple, il y a des hauts et des bas.
Vous, c'est pas des clients qui vous tirent les prix vers le bas absolument?
Non, ils tirent pas les prix vers le bas. le prix qu'on leur propose.
Parce que dans certains domaines, comme le lait par exemple, on voit des agriculteurs. Ah,
c'est pas les grandes surfaces. C'est pas les grandes surfaces.
C'est les collecteurs.
C'est différent. On parle pas de la même chose.
Je posais la question.
On parle pas de la même chose. Là, comme en ce moment, il y a eu le blocage des abattoirs par rapport au prix de, au cours du prix de la viande.
Bovine.
Voilà. Donc c'est les abattoirs Bigard, Charal qui ont été bloqués. Puisque c'est lui qui passe le plus gros débit de viande. Et c'est lui qui influence un peu aussi. Donc c'est toujours pareil.
Ah oui, donc selon vous, le problème ne vient pas de la fin de la chaîne, mais plutôt des intermédiaires qui...
Il y a les intermédiaires, et puis après, les grandes surfaces, elles, on va dire, elles appliquent ce qu'on leur dit. C'est les centrales d'achat qui font le reste. Donc c'est toujours l'intermédiaire qui fait un peu la pluie et le beau temps. Donc si... Nous, en produisant, en vendant directement, on peut éviter ça. Donc, la marge que eux, entre guillemets, nous volent, pour revendre à la grande surface, c'est à nous de la garder.
Voilà. Vente directe, quand on vous voit sur le marché, d'accord, mais c'est direct.
Et si je vends à la grande surface, c'est vente directe.
Bah alors,
parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire.
Non. Vous ne passez pas par une centrale d'achat.
Je passe pas par centrale d'achat, je passe pas par des groupements collecteurs. C'est moi qui démarche les gens, c'est moi qui amène mes produits, c'est moi qui les livre.
D'accord, non, mais
c'est de la vente directe.
Que vous entendez par vente directe. Oui, oui.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Enfin, entre guillemets, il y en a un petit, c'est la grande surface. Mais on est obligé aussi de travailler avec eux, puisque bon, on est dans un département où on est peu nombreux. Donc pour arriver à s'en sortir, il faut vendre. Donc voilà.
Partout, c'est possible.
Voilà.
Et vous, sur le marché de l'œuf, vous êtes en concurrence avec des... Comme vous disiez, on a une boîte d'œufs parmi d'autres. C'est qui les gros... qui font peut-être d'ailleurs des œufs avec d'autres codes qui sont pas en plein air.
Il y a tous les codes. Dans un rayon d'œufs, il y a tous les codes. Ça va du 0 jusqu'au 3. On va dire qu'à l'heure actuelle, le 3 est pas cher, mais il en faut parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer les autres.
Il
y a un peu de tout.
L'œuf de poule élevé en bâtiment fermé et vous avez
en
dit
cage, en cage, ouais. C'est le 3, c'est le moins cher. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer, on va dire, la douzaine d'œufs, je ne sais plus à combien elle est, mais elle est à 1,50€ ou 2 euros à peine en code 3. Alors que cela arrive à 3 euros, un peu plus de 3 euros. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre des écarts. Donc il en faut pour toutes les bourses.
Donc cette codification, ça vous paraît assez, assez correct en fait?
Disons que la codification permet aux gens de savoir ce qu'ils achètent. C'est surtout ça. C'est la traçabilité. Ça revient au même.
Vous venez d'entendre Didier Chicot qui vient de commencer un élevage de poules pondeuses à Faux-la-Montagne en Creuse. C'était Histoire de terre sur Radio Vassivière, une émission qui vous emmène chaque mois à la rencontre d'un paysan. L'émission vient de changer d'horaire, elle est maintenant diffusée un mercredi sur deux à 19h et toujours un samedi sur deux à 11h. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les archives sur notre site radiovassivière.com.